Le dernier des intervenants de cette table ronde, c'est Alain Ruscio, qui va nous parler justement des projets et des projets qu'on peut faire avec d'autres, hein, sur différents thèmes pendant l'année 24 qui s'ouvre. Alain.
Oui, merci. Avant de parler des projets, je vous promets que je ne m'étais pas concerté avec Mme Brio-Sarcey, mais à propos de l'oubli, et moi j'avais envisagé d'entamer ma présentation, ce n'est que de l'eau, hein. Ma présentation par une formule qui pourrait vous paraître peut-être un peu provocatrice, qui dirait que nous sommes irremplaçables. Avec un nous, bien sûr, collectif de nous tous, et bien sûr de bien d'autres collègues historiens ou chercheurs ou militants ou citoyens dans cette société, mais nous sommes irremplaçables pour essayer, en tout cas pour le rôle qui est petit noyau qui anime cette histoire coloniale et post-coloniale, nous efforçons effectivement de lutter contre l'oubli et de lutter contre le consensus. De lutter contre les choses qui paraissent évidentes, contre le bon sens, dirait Macron, je crois, cette expression souvent. Et je voudrais prendre quelques exemples dans l'actualité. Le premier exemple, il a déjà été cité par Jean tout à l'heure, c'est le décès de Robert Badinter. Le discours de Macron avec les trémolos dans la voix n'était ni fait ni à faire, et il a oublié, avec les guillemets nécessaires, il a oublié la guerre d'Algérie. Mais je dirais au pluriel, ils ont oublié la guerre d'Algérie. À ma connaissance, peut-être une reste comme dire, à ma connaissance, aucun médium national, à la radio, oui, histoire coloniale, donc effectivement, nous sommes les héros de la résistance historienne. En tout cas, bon, ça va de soi, et j'allais citer évidemment Mediapart, c'est sur mes notes, je peux vérifier, hein, et histoire coloniale. Mais en tout cas, le rôle de Robert Badinter dans le comité, la défense du comité Audin a été complètement oublié. Probablement parce que dans son parcours, c'est la chose la moins consensuelle. Parce que les autres, bien sûr, à part des crapules d'extrême droite complètement réactionnaires, plus personne ne peut effectivement défendre la peine de mort. Mais bon, là, c'est consensuel. Donc voilà la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est également sur l'actualité. Mayotte. Je suis effrayé de constater qu'on ne parle jamais des origines de la crise de Mayotte. Les origines, c'est quoi? Mais c'est un vol colonial. Mayotte, c'est un vol colonial. La France a été dénoncée par plusieurs sessions successives depuis 1975, je crois, de l'Assemblée générale de l'ONU, sur le fait que la France a trahi l'accès à l'indépendance de l'ensemble des îles de Mayotte. La première séparation, la première mise à l'écart en quelque sorte des Comores, pardon, de l'ensemble des îles des Comores, la première mise à l'écart d'une des îles des Comores, à savoir Mayotte, a été faite par la France. En quelque sorte, c'est une pratique coloniale assez classique finalement. On choisit ses bons indigènes, on choisit ses bons colonisés. Et ceux qui seront utiles pour des raisons évidemment géostratégiques sont magnifiés et les autres sont devenus des étrangers. Alors, effectivement, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été mises sur le site de l'histoire coloniale. Pour mémoire, en 2022, il se trouve que moi j'avais écrit un article justement sur la négation du droit à l'ensemble des îles des Comores d'avoir accès à l'indépendance. Je sais qu'en 1923, en 2023, il y a eu un article un compte rendu du livre Nicolas Ronsard, je prononce bien, par Joseph Fonfroy-Mieux, qu'on connaît bien. Et récemment, et ça dément un petit peu ce que je viens de dire, mais il y a eu un article dans Le Monde que nous avons repris avec le titre À Mayotte, les Comoriens ne sont pas des étrangers. Troisième exemple, les colonisés dans la résistance à l'occasion de la panthéonisation de Manouchian. et des époux manouchnas, pardon. La présence des colonisés à l'intérieur de la résistance française, la présence active, n'apparaît jamais. Prenez un exemple. Parmi les fusillés glorieux de Châteaubriand en octobre 1941, il y avait bien sûr Dimoquet, il y avait bien sûr Jean-Pierre Fanon, un certain nombre d'autres. Beaucoup d'entre eux ont des rues dans les rues de nos villes. Il y avait à l'intérieur, dans le groupe des fusillés, qui était un militant qui était également communiste, qui s'appelait Win Pong Han. Excusez-moi, j'ai peut-être mal, parce que, comme disait Aragon, à prononcer leurs noms sont difficiles. Mm-hmm. Personne ne connaît son nom. Il a une plaque dans le 14e, porte de vente, si vous voulez aller la voir. Personne ne connaît son nom. Donc voilà également un aspect que nous devons mettre en œuvre. Également, regardez le nombre de fusillés algériens, enfin, pour être plus précis, maghrébins, au Mont Valérien. Au sein du Mont Valérien, regardez la liste, c'est dans mon bouquin sur Paris colonial, il y a eu un grand nombre de colonisés qui étaient des colonisés actifs pour la résistance, en l'occurrence surtout urbaine à Paris, qui ont été fusillés au Mont Valérien. Alors maintenant, Gilles m'a tendu la perche pour présenter les activités, pas toutes les activités, mais il y a une chose sur laquelle on voudrait un petit peu axer notre activité et présenter aujourd'hui, c'est l'anniversaire des événements de l'année 1954. En 1954, comme vous le savez, il y a eu un certain nombre d'événements très importants dans l'histoire de la décolonisation. Chronologiquement, Dien Bien Phu, 7 mai 1954, que certains, je cite par exemple un officier d'ailleurs de l'armée française qui s'appelait Jean Pouget. Jean Pouget a qualifié Dien Bien Phu le 14 juillet de la décolonisation, et un autre que vous connaissez beaucoup plus, Ferhat Abbas, qui a parlé de Dien Bien Phu comme le Valmy des peuples colonisés. Donc Dien Bien Phu, c'est un moment important de l'histoire du Vietnam, de l'histoire de la France, de l'histoire du monde. Et donc on voudrait parler de cet événement auquel a succédé bien sûr la conférence de Genève, 20 juillet 1954, partition du Vietnam et indépendance du Vietnam, et puis le 1er novembre 1954, l'insurrection algérienne, le début de la guerre d'indépendance. Donc, on va essayer de faire soit sous forme de table ronde, encore les choses ne sont pas encore bien définies, soit...
Il ne faut pas oublier le renversement de Arbenz par Castillo Armas au Guatemala. C'était dans l'autre sens, mais c'est 54 aussi.
Oui, 54, oui, bien sûr. Oui, mais enfin, là, en l'occurrence, on a mis le projecteur essentiellement sur l'histoire coloniale française. Enfin, évidemment, il y a d'autres événements qui ont été... Et puis, 55, il y a Bandung. On pourrait également parler de cet aspect, Bandung, qui est un prolongement évident des luttes de décolonisation. Voilà, donc voilà tout ce que je voulais dire sur les projets du site Histoire coloniale et post-coloniale. Merci.
Voilà, donc on va faire circuler le micro. Et sur ces projets, tu as parlé de celui-là, mais on a repéré aussi d'autres anniversaires possibles qui coïncident avec... des anniversaires décennaux dans l'année 2024. Il n'y a pas seulement 54, mais il y a aussi 44 Tiaroy, décembre 44, le massacre des tirailleurs dits sénégalais. Bon, il y a aussi plus anciennement la défaite de la France à la première expédition coloniale, guerre coloniale, celle décidée par un certain Napoléon Bonaparte contre la colonisation de Saint-Domingue, qui est devenue la République d'Haïti en 1804, exactement 150 ans avant Dien Bien Phu. Donc voilà, deux Valmy de l'histoire de l'humanité, si je puis dire, que sont et la bataille de Vertières qui avait précédé l'indépendance de Haïti, et Dien Bien Phu, comme tu l'as dit, Alain.